supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Encore une semaine chargée en actualité. Mais je reviendrai sur ma constitution, enfin sur notre constitution, et sur le titre 2, le président de la République. Je m'étais arrêtée à l'article 8, et voilà ce que dit cet article 8. Le président de la République nomme le premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Et donc le président élu choisira lui-même son Premier ministre, qui lui choisira les ministres, c'est-à-dire le gouvernement.
Je vais juste amener une petite correction. Le Premier ministre propose les ministres et ce n'est que le président qui entérine la proposition du Premier ministre. Donc, ce n'est pas le Premier ministre qui nomme les ministres.
D'accord. On est bien d'accord que c'est le président qui nomme son Premier ministre.
Oui, ah, ça, on est parfaitement d'accord. Mais c'est intéressant par rapport à l'article 9 qui va compléter.
Parce que l'article 9 dit bien « Le président de la République préside le Conseil des ministres ».
Voilà. Alors, c'est là où on arrive quand même à un cumul de pouvoir assez important pour le président de la République.
Ah oui, on va cumuler donc...
Et d'où l'expression employée par... c'était Sarkozy qui avait appelé son premier ministre son collaborateur.
Carrément, oui.
Voilà.
C'est vrai.
Donc, c'est vraiment ça. En fait, il y a un seul patron, c'est le président de la République. D'où ce côté presque... monarchie constitutionnelle de la Ve République.
Tout à fait, puisque dans le titre 2 de notre Constitution, on arrive jusqu'à 19 articles, je crois, qui concernent tous les pouvoirs du président de la République. Beaucoup de pouvoirs. Donc, nous passons de l'article 9 à l'article 10. Le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. C'est pas très clair, mais on va revenir dessus. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
On arrive encore dans les pouvoirs cumulés du président de la République, puisque dans le cas qu'on a connu par le passé de cohabitation, le président n'est pas forcément d'accord avec la majorité parlementaire. Et donc, une loi qui le dérange, il peut, au lieu de la promulguer, il dit non, vous allez la réexaminer. Voilà.
Oui. Et on peut rappeler que le Conseil constitutionnel vérifie à son tour la conformité des lois de la Constitution lorsqu'il en est saisi. Cet article, peu explicite à mon avis, je trouve, introduit la réforme constitutionnelle de 2008, dont on ne parle pas beaucoup, et cependant, il y a eu de grands changements. Et c'est le président Sarkozy qui s'en est chargé. Donc la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 modernise les institutions de la Ve République. Une révision constitutionnelle avec 24 modifications de la Constitution. De celle de 58, vous vous souvenez, celle du général de Gaulle. Ce qui a modifié de nombreux articles, donc, de la Constitution française. Elle prévoit notamment l'impossibilité pour le président de la République d'exercer plus de 2 mandats consécutifs. Instaure le référendum d'initiative partagée et la question prioritaire de constitutionnalité, ce qu'on appellera dans le langage politique, le QPC, si vous l'entendez, sachez que c'est la question prioritaire de constitutionnalité, rend obligatoire l'information du Parlement par le gouvernement. Partage de l'ordre du jour entre l'exécutif et le législatif, et aussi en cas d'intervention des forces armées à l'étranger. Changement sur le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental de la limitation de l'article 49.3. Alors, vous voyez, il faut décoder un petit peu tout ça parce que, sincèrement, moi-même, j'ai relu à plusieurs fois, puis j'ai été voir justement dans la loi organique, aussi tous ces articles et tous ces alinéas qui se rajoutent à l'article 10. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais rajouter que c'est très bien, c'est la première fois qu'on parle de la 3e Assemblée française, car c'est comme ça qu'elle est présentée dans la Constitution. Jadis, le Conseil économique et social est désormais le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui est la 3e Assemblée française dont on parle jamais. Qui n'a aucun statut législatif, mais qui est conçue comme l'Assemblée qui réfléchit en amont des deux autres assemblées. C'est-à-dire que avant de travailler sur une loi, le CESE recherche, et je vous invite à aller sur le site du CESE, parce que vraiment, il y a des réflexions super intéressantes, et que ce sont des gens issus. C'est très compliqué, la composition. Il y en a qui sont nommés par le président de la République, il y en a qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, il y en a nommés par les partis, oui. Et il y en a nommés par les syndicats.
Ah oui, il y a les trois chambres et les syndicats.
Voilà, c'est
oui.
ça.
Oui, oui. Et finalement, cette révision, elle a quand même modernisé.
Mais pour les gens qui s'intéressent, allez voir le site du CESE, ça vaut vraiment la peine, il y a vraiment des matières à réflexion très intéressantes.
Allez, intéressons-nous un peu à notre politique, parce que franchement, on a des choses à dire. Alors, nouveaux droits pour le Conseil supérieur de la magistrature, mais je dis qu'il y a des nouveaux droits, mais je continue à expliquer, parce qu'autrement, ce serait beaucoup trop long dans l'émission et beaucoup trop ennuyeux. L'adoption de cette nouvelle loi constitutionnelle, selon une procédure spéciale définie par l'article 89 de la Constitution, implique l'exécutif, le Parlement et le peuple, directement ou indirectement. Approbation par le Parlement réuni en Congrès. Donc, là aussi, on confirme ce que Poupa, tu viens de nous dire. Le texte consacre alors de nouveaux droits en faveur des citoyens. Ah, ne ris pas, vous allez voir. Sachons-le. Le droit pour tout citoyen de contester une loi lors d'un procès s'il estime qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en posant les problèmes ou questions au Conseil constitutionnel. Article 61-1. Avant cette réforme, il n'était pas possible de contester la conformité constitutionnelle d'une loi. Déjà, et en plus, elle était bien souvent entrée en vigueur quand on en parlait. Donc, une petite avancée, malgré tout.
C'est une véritable avancée, puisque une loi qui est votée, qui est rentrée dans les mœurs, si on s'est jamais posé la question, lors d'un procès, puisque c'est bien dans le cadre d'un procès, si on est sous le coup de cette loi et qu'on trouve une exception de constitutionnalité, on peut la soulever, alors qu'avant, même si cette loi n'était pas constitutionnelle, on y était soumis.
Voilà.
Donc quand même, je dirais que c'est une belle progression.
Il y a eu
et
des
c'est
avances.
Surtout le moyen pour un particulier de saisir le Conseil constitutionnel.
Donc nous avons des droits. Puis la création d'un défenseur des droits, notamment chargé de recueillir les réclamations des personnes qui s'estimeraient lésées par le fonctionnement d'un service public. Article 71-1.
Oui, qui a été encore remodifié, puisque désormais le défenseur des droits est également le défenseur des enfants, suite à une nouvelle modification qui a été faite.
Effectivement, merci de le rappeler. La possibilité de saisir aussi, par voie de pétition, le Conseil économique, social et environnemental. On peut s'en référer à l'article 69. Ces pétitions doivent rassembler au moins 500 000 signatures pour être recevables par le Conseil. Les conditions sont fixées dans la loi organique du 9 juin 2010. Alors, il y avait eu un petit décalage. Cependant, je pense que c'est pour l'aéroport de Paris qu'il y a eu une concertation.
Oui, mais là, c'est...
Et une pétition.
C'est le référendum d'initiative parlementaire.
Oui, parlementaire. Mais je pense que par anticipation, il y avait eu...
Je pense pas.
Non,
bon. C'était pour... Je pense que tu vas le développer, puisque c'est l'essentiel de cette réforme de 2008. C'est ce fameux référendum d'initiative parlementaire.
Partagée. Mais ça, on repart sur l'article 11. Bon à savoir, cette dernière procédure peut être enclenchée par tout citoyen lorsqu'il estime que des droits et libertés garantis par la Constitution sont en jeu. Le Conseil d'État vérifie quant à lui la conformité à la Constitution des actes réglementaires du gouvernement, les décrets, les ordonnances prises sur habilitation du Parlement, arrêtés ministériels.
À noter que le Conseil d'État a également un autre rôle, il ne fait pas que ça. C'est la cour d'appel du tribunal administratif. C'est-à-dire que quand vous attaquez l'État ou un département ou quoi que ce soit, vous le faites au tribunal administratif. Et dans le cas où vous n'êtes pas d'accord avec la déclaration du tribunal administratif, la cour d'appel du tribunal administratif, c'est le Conseil d'État.
D'accord. Et en plus, il y a une commission aussi, donc... Vous pouvez aller voir constitution.gouv, je regarderai la prochaine fois, je vous dirai. Donc, il y a une commission qui a été nommée pour étudier les pétitions qui devraient passer donc dans cette commission. Si la pétition est recevable, elle est étudiée par une commission qui est nommée strictement pour ça. Passons à l'article 11. Le président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiée au journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Il n'y aurait pas... Ils ont oublié de citer un exemple. Exemple, traité de Maastricht.
Ah, là, oui.
C'est pas anticonstitutionnel, mais ça pose, c'est quoi les termes employés ?
Pose un problème.
Non, ça a des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Des institutions.
Voilà.
Eh oui.
Je citais la Constitution.
Sauf que c'est en 2005, là, la remise à jour donc de cette Constitution a été en 2008. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait devant chaque assemblée une déclaration qui est suivie d'un débat. C'est exactement dans les textes. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique, dont je me passerai de vous en donner les précisions. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet donc au référendum. Ah, toujours un peu long ces articles de loi, et puis il faut toujours s'en référer aux différents alinéas de la loi organique. Toujours un peu long et confus. Donc, allez, je vais synthétiser, la mise en place du référendum d'initiative partagée, qui doit être soutenu par au moins un dixième des citoyens français inscrits sur les listes électorales pour conduire à ce référendum, sans compter que tous ces votes se sont faits sous forme électronique, donc non plus forcément une ou par initiative citoyenne, non ?
On soutenait le référendum, mais on ne vote pas pour le référendum. Il faut qu'il y ait d'abord un cinquième des parlementaires qui demandent cela. Ensuite, il faut qu'il y ait un dixième des inscrits sur les listes électorales qui ne votent pas, mais déclarent qu'ils veulent. C'est très compliqué puisqu'il fallait donner sa date de naissance, le bureau de vote où on était inscrit, le numéro de sécurité sociale... le numéro de carte d'identité.
Oui, il fallait te repérer sur toute la France en tant qu'électeur pouvait...
Et donc, une fois que tout cela est accepté, soit, comme tu viens juste de le lire, le président de la République décide de présenter cette loi au Parlement Et si ça n'a pas été fait dans le délai de combien de temps je ne sais plus.
Des 2 ans.
Dans un délai fixé par la loi organique.
Par la loi organique.
Alors justement, je voulais venir sur ce truc, ça fait rire, loi organique, mais le législateur est parfois très vicelard. L'intégrer à la Constitution, c'est pas le rendre immuable, mais c'est rendre très difficile la modification, puisqu'il faut soit rassembler le Parlement, ça coûte très cher, le Parlement étant constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat, et le seul endroit en France où ils peuvent se réunir, a priori, c'est au château de Versailles. Qui est le seul endroit où on peut mettre tout le monde.
Tout le monde.
Donc, avec des pupitres, avec les ordinateurs, avec tout ce qu'il faut pour un sénateur. Donc, le faire par loi organique, une loi organique, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de modification de la Constitution. Une fois qu'on a la majorité au Parlement, on fait voter la loi organique qu'on veut. C'est-à-dire que une personne mal intentionnée, ce qui ne peut pas arriver, un président de la République qui serait mal intentionné ne peut bien sûr pas arriver.
Pas
mais
pensable.
Enfin, admettons.
C'est
admettons,
pas pensable. Voilà, non, non, admettons, ce n'est pas pensable.
Eh bien, il décrète que le délai, c'est 10 ans dans la loi organique.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que quelqu'un de mal intentionné, je précise bien, ce qui ne peut pas arriver, je précise bien, peut annuler ce référendum d'initiative partagée, enfin, ou parlementaire, puisqu'il change la loi organique et il dit que le délai, c'est 10 ans. Donc, voilà, par exemple. Et c'est volontairement, je pense, que ce n'a pas été intégré dans la Constitution, mais qu'on remet ça à une loi organique.
Merci, Poupa, d'avoir été beaucoup plus clair que moi, parce que je suis restée un peu sur les textes et je me suis... Voilà. Donc, lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Là, vous remarquerez que le coup des 15 jours, c'est dans la Constitution, c'est pas une loi organique.
C'est pas la loi organique.
Oui. Et je rappelle qu'au préalable, il faut avoir mobilisé 1/5 des parlementaires, 2,2 millions de Français qui veulent bien donner leur numéro de carte d'identité, leur date de naissance, le bureau de vote où ils votent, tout ça sur Internet.
C'est-à-dire, tout est fait pour bien décourager le citoyen d'entreprendre sa place et de reprendre sa place dans ce pouvoir. Et notre société, elle est aussi gérée par les citoyens. Elle doit être gérée. Elle devrait être
gérée. Je rappelle que c'est par le peuple, pour le peuple.
Pour le peuple. Voilà. Donc, en fait, avant de vous laisser avec le petit moment musical, je voulais vous dire que le président, donc, dans le titre de notre Constitution, on parle du président et de ses pouvoirs de l'article 2 à l'article 19. Je pense à l'article 2 de l'article 2 à l'article 19.
C'est de l'article 5, en fait.
5.
Voilà.
Tu recouperas. De l'article 5 à l'article 19, on parlera du rôle du président et de ses responsabilités face au gouvernement et face au peuple français. Allez, je vous laisse avec Juliette.
Il fait nuit, c'est l'hiver, et vous voilà venus, enfin dans mon qu'on se dise-tu, un sourire d'abord, quelques banalités, on ne dit rien encore, il convient d'hésiter devant la cheminée, contre cœur et contre âme, nous regardons nos soupirs dans les flammes. Le démon du feu pétille joyeux sur les charbons ardents de sa fournaise, les yeux sur le feu dans les yeux. Il faudra bien qu'on parle ou qu'on se taise et qu'un baiser apaise ce si charmant malaise. Que tu m'embrasses, que je t'embrase, que le désir enfin prenne ses aises, à l'unisson des frissons de la braise, à l'unisson des frissons de la braise. Thank you. baisser, comme il fait bon ici. Est-ce à cause du foyer que nos joues ont rougi? Le regard qui enjôle, les silences troublants, craignant la main qui frôle et l'espérant pourtant. Pour changer de sujet, donnez donc à brûler cette bûche au chenet et regardons danser le démon du feu pétillant joyeux sur les charbons ardents de sa fournaise. Les yeux sur le feu dans les yeux. Il faudra bien qu'on parle ou qu'on se taise et qu'un baiser apaise ce si charmant malaise. Que tu m'embrasses, que je t'embrase, que le désir enfin prenne ses aises à l'unisson des frissons de la braise, à l'unisson des frissons de la braise. Lisez-vous mes pensées, mon attente et ma fièvre. Vous vous êtes approché à portée de mes lèvres et nous fermons les yeux. Mais le désir s'éteint quand le tapis prend feu. Et c'est la panique, la braise ironique, roulant semant ses étoiles mauvaises. Le démon du feu par jeu malicieux nous fait danser une drôle de javanaise à pieds joints sur la braise. L'idée était mauvaise de faire du feu pour les amoureux, pour que le désir puisse prendre ses aises. Deux cœurs ensemble font assez de braise, deux cœurs ensemble font assez de braise. Reviendras-tu demain? J'attendrai au jardin. Que tu m'embrasses, que je t'embrase. Et s'il fait trop froid, ce qu'à Dieu ne plaise, nous ferons un feu de nos cœurs de braise. Nous ferons un feu de nos cœurs de braise. Nous ferons un feu de nos cœurs de braise. Nous ferons un feu de nos cœurs de braise.
Donc voilà, il y a juste que pour l'aéroport de Paris qu'il y a eu cette tentative, on va dire, de référendum d'initiative partagée, mais on est bien d'accord, on n'avait pas le nombre de citoyens.
On n'a pas eu de référendum, puisqu'on n'a pas eu les 2,2 millions d'inscrits.
Et du coup, ça veut bien dire qu'on n'a pas eu d'autres référendums, c'est-à-dire que les Français n'ont pas eu le droit à la parole sur plein d'autres choses qui ont été décidées sans le peuple. Mais ce qui est un petit peu désolant, mais sachons que nous avons quand même ce devoir de citoyen de pouvoir reprendre cette place. Reprenons notre place. Car aujourd'hui, nous l'entendons au travers de certains discours de candidats pour les présidentielles et dans la presse, mais dans les débats, dans les discours, qu'il faudrait un changement de constitution et pour certains une assemblée constituante. Poupa, tu voulais rajouter quelque chose?
Sur tout ce qu'on a dit avant, j'ai dit une grosse bêtise parce que c'est pas 2 millions 2 qu'il faut. C'est 4 millions 8. 4 millions 8 de signataires.
Voilà.
Et ben donc c'est impossible à peu près.
C'est impossible. Tout est fait finalement pour que le citoyen n'ait pas vraiment sa place. Parce que déjà, c'est tellement compliqué pour nos parlementaires, pour les députés. Alors imaginez pour le Français lambda que nous sommes. Nous sommes de pauvres Français devant une constitution qui a été bien compliquée par des lois organiques sous Monsieur Sarkozy. Sommes-nous d'accord?
C'est surtout que les modifications de la Constitution faites par sous le régime de Nicolas Sarkozy font largement appel aux lois organiques, et on revient à ce que je précisais avant, c'est-à-dire que ça devient très facile de modifier l'impact de l'article de la Constitution en modifiant juste une loi organique qui ne nécessite ni référendum, ni convocation du Congrès. Voilà, je cherchais le terme convocation.
Merci.
Car donc, on convoque le Congrès.
Donc, nous laissons là, je n'attaquerai ni de l'article 12 à l'article 19 pour une prochaine fois. Donc, est-ce bien clair pour tout le monde? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça ne nous renvoie pas quelques années, voire des siècles en arrière, et revenons en 1789, date de notre Révolution française. Est-il pensable aujourd'hui de remettre en place une assemblée constituante, une vraie, où le pouvoir du citoyen pourrait enfin, la parole du citoyen pourrait enfin prendre sa place? Mais, me direz-vous, à quoi sert une constituante? Alors, je reprends pour quelques éclaircissements et en m'aidant d'un article paru la semaine dernière d'André Bellon, président de l'association pour une constituante dont je fais partie, avec Anne-Cécile Robert et Jean-Michel Toulouse également. Une constituante a pour mission de redéfinir les institutions. Elle a aussi pour but de créer les conditions d'un nouveau contrat social, on va dire d'un ordre social au service de l'intérêt général. La constituante est l'instrument nécessaire pour recréer le citoyen en tant qu'acteur et en tant que membre du corps politique souverain. Il faut que l'Assemblée constituante soit élue par tous les citoyens. Elle doit émaner de comités et d'assemblées constituantes locaux, communaux et départementaux, instances dans lesquelles le peuple élaborera les nouvelles institutions. Et il serait absurde de penser que les Français ne pourraient pas être ces acteurs du changement, qu'il y aurait anarchie et absence de technicité, alors que parmi nous, et c'est dans le peuple français, que l'on peut trouver ces techniciens même et ces acteurs pour le changement. Et rien ne nous empêcherait de trouver alors d'autres experts pour nous informer.
Mais si on envisage ces assemblées constituantes vues d'un autre point de vue, comme ça a été le cas plusieurs fois, par exemple en 45, où c'est l'assemblée elle-même, mais d'élus. Les élus, ils n'ont pas les compétences techniques en droit constitutionnel identiques. Donc, il y a des gens qui, dont c'est la spécialité, il y a des profs de droit constitutionnel, il y a des choses comme ça, qui sont là pour vous expliquer en cas de problème. Donc, même le plus béotien de tous les gens du peuple, mais qui a ce qu'on appelle le bon sens, peut arriver avec des propositions séduisantes. Voilà.
Exactement. Donc, et nous devons reprendre donc confiance en nous, nous former en quelque sorte aussi, pour reconstruire la vraie démocratie, pour faire face aux prochains défis, et cela nécessite la participation et l'action de tous. Comment a-t-on pu attendre aussi longtemps à admettre la faillite du régime institutionnel en France? Comment peut-on encore entendre tant de responsables français se féliciter de la stabilité politique alors que celle-ci se fait au détriment de tout contrat social? Parlons-en du contrat social, ou du contrat social ou principe du droit politique. En 1762, je vous propose de lire ou de relire le livre de Rousseau. Pour comprendre notre société d'aujourd'hui, il expose dans cet ouvrage du contrat social les notions fondamentales de droit, de politique, de liberté. Et il peut nous aider à faire l'analyse de nos politiques actuelles, de mieux comprendre la justice actuelle. Il retrace les fondements même de notre société sous le prisme des chefs d'État. Rousseau utilise le terme de république pour désigner toute société régie par la loi ou qui est gouvernée par la volonté générale de son peuple. Un droit civil est un acte de la volonté générale, selon Rousseau, et la volonté générale doit être obéie par tous. Ainsi, l'obéissance à la loi civile est requise pour tous, pour tous les individus, par les termes du contrat social. En sachant tout ça, nous serions déjà des citoyens bien éclairés. En fait, c'est tout le système politique, autant qu'économique et financier, qui est en cause. En même temps qu'une classe dirigeante. Une telle situation ne peut mener qu'au conflit avec une crise économique et sociale profonde. Hélas, nos responsables politiques développent un conservatisme qui cache sa violence dans les habits de la stabilité. Alors qu'une constituante devrait être l'instrument autour duquel on peut reconstituer le peuple en tant que corps politique, souverain, conformément aux principes républicains. Donc, chers auditeurs, si vous vous intéressez à la constituante et si vous êtes, vous en voulez en savoir plus par des échanges autour de la politique, vous pouvez venir nous rejoindre dans un cercle constituant. Je vous rappelle donc l'adresse mail, vous pouvez me laisser un message. Donc, pour la constituante 82, tout attaché minuscule, @free.fr. Ou revenir sur le site de Pour une constituante. Nous aurons là, pour cette fin de cette chronique, une pensée solidaire donc à l'Ukraine. Je vous quitte avec Noir de Daddy and Hippa. C'est un remix sur un morceau donc instrumental de War de Bob Marley et de un mélange avec donc et de Russians de Sting. Je vous laisse écouter ce morceau incroyable et en avant-première.
Children too.